Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Ça fait un moment que je n'ai pas vu certains d'entre vous et je suis content de vous revoir et de voir voilà, cette salle déjà bien remplie. Bienvenue en tout cas à chacun d'entre vous. Et vraiment, on va commencer par la lecture de la parole de Dieu. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 14, les versets 1 à 11. Le texte sera aussi affiché. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Je vous invite encore à la prière. Notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole que nous reconnaissons comme étant la vérité, parce qu'elle nous vient de toi. Et nous te prions, Seigneur, d'avoir les oreilles pour entendre, et notamment de pouvoir percevoir le message d'aujourd'hui. Oui, parle-nous encore. Adresse-toi à nous, personnellement. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Habituellement, quand nous devons choisir un cadeau pour quelqu'un, nous nous livrons à plusieurs estimations. Nous regardons à notre budget. Nous estimons peut-être ce qui est bienséant, convenable de donner pour ne pas être mal vu. Nous considérons la proximité ou non que nous avons avec la personne en question. Nous regardons à la personne elle-même, à ce qu'elle représente pour nous. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que plus nous sommes attachés à cette personne, et plus nous sommes prêts à lui offrir un cadeau d'une plus grande valeur. C'est ce qui semble se passer à Béthanie, où cette femme verse sur la tête de Jésus un parfum d'une grande valeur. Et cela dit quelque chose de ce que Jésus représente pour elle. Ce texte nous questionne aussi d'emblée sur ce que Jésus représente pour nous, croyants du XXIe siècle. Et comme vous le voyez, Marc insère ce récit dans un contexte plus large, où contrairement à cette femme, les intentions sont clairement hostiles à Jésus. Complot et trahison encerclent ce récit, ce moment à Béthanie. Et je vous avoue que cette semaine, j'ai dû longuement réfléchir à la raison pour laquelle le texte était présenté ainsi. Qu'est-ce que cette scène à Béthanie apporte de plus? En réalité, cette scène nous conduit à accorder beaucoup de prix au personnage central de l'Évangile, Jésus, et à ce qui va lui arriver, sa mort prochaine. Et à partir de ce matin et les dimanches suivants, nous parcourons les chapitres 14 et 15 de l'Évangile selon Marc. des textes que nous lisons habituellement durant la semaine qui précède Pâques. Mais au lieu de les lire à toute vitesse et de manière condensée, je vous propose par cette série de prédications de prendre le temps d'aborder section après section ce que notre Seigneur Jésus a vécu et enduré jusqu'à sa mise au tombeau, après avoir donné sa vie sur la croix. Que nous puissions profiter de cette occasion, de cette série de prédications pour ralentir et prendre le temps de suivre les traces de Jésus jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, tout dans le texte de ce matin, celui que nous venons de lire, se rapporte à la mort de Jésus. Et d'abord, ce qui pourrait caractériser cette mort et qui nous est présentée de cette manière-là dans notre texte, c'est une mort programmée. Et cette mort est programmée à double titre. D'abord du point de vue des hommes et ensuite du point de vue de Dieu. Je relis les versets 1 et 2. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme nous sommes en train de prendre le récit en cours de route dans cet évangile, je dois aussi évoquer quelques détails que Marc a déjà mentionnés dans les chapitres précédents. En effet, depuis que Jésus est entré à Jérusalem, depuis qu'il est arrivé, les confrontations avec les autorités religieuses se sont multipliées. Un exemple, après que Jésus a vigoureusement chassé des marchands du temple, Marc raconte, Marc 11, verset 18, « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. » Une autre fois, après une parabole que Jésus leur raconte et qui les accuse directement, eh bien, nous pouvons lire en Marc 12, verset 12, « Ils cherchaient, toujours les mêmes, à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. » Jusque-là, leurs intentions n'ont jamais réussi à se concrétiser. Ils ont voulu l'arrêter, ils n'ont jamais réussi. Donc, nous ne sommes pas étonnés de retrouver ces chefs des prêtres et ces spécialistes de la loi à nouveau ensemble pour comploter contre Jésus. Et ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas réussir à l'arrêter aussi facilement. C'est pourquoi ils décident, comme on le voit au verset 1 de notre texte, ils décident de recourir à la ruse, d'être plus discrets, plus rusés. Et leur projet ne s'arrête pas là parce que nous l'avons déjà lu juste avant. Ils veulent tuer Jésus. Ce n'est pas simplement un complot pour l'arrêter, pour le mettre en prison, mais ils veulent supprimer sa vie. Mais sans provoquer d'agitation, surtout en cette période de la Pâque juive où de nombreux pèlerins se rassemblaient à Jérusalem. Surtout ne pas faire de vagues, étant donné aussi la popularité de Jésus. Autrement dit, s'il faut arrêter Jésus à ce moment de l'histoire, il faut le faire discrètement et loin de la foule. Et comme nous le savons déjà, c'est ce qui va arriver, effectivement. Et quelqu'un va les aider pour ce complot, pour la réalisation de ce complot. Nous le voyons au verset 10 et 11. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Les chefs religieux ne pouvaient pas mieux espérer. Un homme du cercle proche de Jésus est prêt à trahir son maître pour de l'argent. Et je dirai plus tard encore un mot sur Judas. Je ne veux pas m'étendre davantage maintenant. Donc du point de vue des hommes, le complot se met en place, la mort de Jésus est programmée. Et je disais qu'elle était programmée à double titre, également du point de vue de Dieu. Quand nous prenons en compte l'ensemble de l'évangile selon Marc, nous comprenons alors que ce complot faisait partie d'un plan plus vaste et déjà annoncé par Jésus lui-même. Quand nous regardons les versets 8 à 10, Jésus avait déjà prévenu ses disciples, même si ces derniers avaient du mal à le comprendre. Je ne dirai pas tous ces passages, mais simplement mentionner par exemple Marc chapitre 10, versets 33 à 34, où Jésus annonce à ses disciples, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Dans ces trois annonces que vous avez sous les yeux, Jésus fait mention de la responsabilité des hommes. Il sera livré, il sera rejeté par les hommes, il sera livré entre leurs mains. Et nous savons par notre texte qu'il sera livré tout particulièrement par Judas. Mais d'un autre côté, et c'est ce que nous voyons par exemple en Marc 8, verset 31, il fallait qu'il passe par ce chemin de souffrance. Parce que sa mort était programmée depuis fort longtemps. Et en lien avec le sacrifice de Jésus, l'apôtre Pierre écrit à son sujet, on lit en 1 Pierre chapitre 1, verset 20, « Prédestiné au sujet de Jésus, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Sa mort était programmée depuis fort longtemps. Et au temps voulu, au moment voulu, les choses se sont réalisées comme Dieu l'a voulu. Donc lorsque nous parvenons au chapitre 14 de l'évangile de Marc, nous ne sommes pas du tout surpris de lire que ces hommes manigancent derrière le dos de Jésus. Nous assistons en fait à l'accomplissement de ce que Jésus avait déjà annoncé d'avance. Tout se passe comme il l'avait dit. Tout se passe comme Dieu l'avait planifié. Et aussi étrange et mystérieux que cela puisse paraître, la méchanceté dont les hommes sont seuls responsables est mise au service du plan de Dieu. Il y a un côté mystérieux dans la manière dont Dieu utilise même le mal pour que son plan puisse se réaliser. Et à aucun moment, Marc nous laisse entendre que Jésus n'a été que la victime d'un complot humain. Bien au contraire, le lecteur est d'emblée préparé à ce que l'histoire se termine par la mort et la résurrection de Jésus. C'était le plan divin. La mort de Jésus était programmée et rien ne pouvait faire obstacle à cela. En même temps, cette mort est programmée, mais en même temps, quand Marc insère au milieu de ces scènes de complot ce qui se passe à Béthanie, cela met la lumière sur la valeur inestimable de la mort de Jésus. Pourquoi la valeur inestimable de sa mort? Eh bien, en fait, à cause de la valeur inestimable de celui qui donne sa vie. Et pour aborder les versets 3 à 9, je ferai trois remarques. D'abord, les spécialistes se sont demandé, en comparant les quatre évangiles, si tous parlaient du même moment. Ce récit de Marc, nous le retrouvons aussi dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 26. Quant à Luc, il rapporte aussi une scène où une femme pleure sur les pieds de Jésus et verse du parfum dessus. C'est ce que nous lisons en Luc 7. Mais cela ne se passe pas à Béthanie. Donc, Luc est en train de raconter un autre moment. Quant à Jean, la scène se passe aussi à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Et nous savons même que la femme en question est Marie, la sœur de Lazare, que Jésus a ressuscité. Et pour plusieurs, en fait, Jean rapporte la même scène ici que Matthieu et Marc. Jean situe l'action 6 jours avant la Pâque. Marc situe l'action 2 jours avant. Nous pouvons en conclure donc que Marc, s'il s'agit toujours de la même scène, a placé cette scène à cet endroit sans se soucier de l'ordre chronologique, mais en mettant en avant un lien thématique. Pourquoi ? Parce que cette scène, précisément, trouve sa place dans les événements qui précèdent la mort de Jésus. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, Jésus et ceux qui sont avec lui ne voient pas la scène de la même manière. Cette femme qui s'approche de Jésus avec un parfum de grand prix est vivement critiquée par les autres invités. Du côté de Matthieu, il précise dans son évangile qu'il s'agit des disciples, ceux qui s'expriment ici. Et Jean va être encore plus précis en mentionnant que c'est Judas qui parle. Mais si on revient juste au texte de Marc, regardez comment il s'exprime ici, précisément. Verset 4, « À quoi bon gaspiller ce parfum ?» Si on imagine que ce sont les disciples qui s'expriment, alors bien sûr, on a peut-être moins d'égards pour Judas qui s'exprime ainsi, mais à quoi bon gaspiller ce parfum sur la tête de Jésus ? Ce parfum de nard si cher finit sur la tête de Jésus et ils appellent cela du gaspillage. Une perte d'argent. De l'argent qui aurait pu aider les pauvres. Et c'est vrai, ce n'est pas une mauvaise cause en soi. Mais Jésus ne porte pas du tout le même regard sur l'action de cette femme. Au contraire, qu'est-ce que dit Jésus au verset 6 ? Il dit « Elle a fait une bonne action. » Elle n'a rien gaspillé, elle a fait une bonne action. Et c'est son appréciation en tant que Seigneur qui compte. De telle sorte qu'à bien des égards, ce que cette femme a fait est exemplaire pour nous. Puisque Jésus approuve. Jésus est bien digne de recevoir un tel honneur, d'être oint par un parfum aussi cher. Et sans négliger le souci pour les pauvres, Jésus montre plutôt qu'il s'agit de ne pas rater l'occasion de bien agir envers lui. Pourquoi ? Précisément parce qu'il ne sera pas toujours physiquement avec eux. C'est le moment de se préoccuper de lui. Troisièmement, Jésus associe le geste de cette femme à sa mort. Et très certainement que cette femme ne savait pas à quel point son geste était significatif à l'approche de la Pâque. Mais pour Jésus, cela est clair, il pense à sa mort prochaine et ce parfum est comme celui que l'on utilisait pour embaumer les morts. Et c'est pourquoi il dit ceci au verset 8 et 9. « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus précise bien, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Parce que comme vous le savez sans doute, lors de sa résurrection, les femmes qui ont voulu l'embaumer n'ont pas pu le faire puisqu'il était déjà vivant. Donc ici, Jésus précise, elle l'a fait d'avance. Et en parlant de son ensevelissement, Jésus assume totalement la mort qu'il va connaître. S'il parle de sa mort, c'est qu'il assume qu'il va vivre cette mort et qu'il est prêt à l'affronter. Et il anticipe même un avenir plus lointain quand la bonne nouvelle sera proclamée, celle qui concerne sa mort ainsi que sa résurrection. Et ce matin, alors que nous parlons de cette femme, de ce qu'elle a fait, nous vivons ce que Jésus a annoncé au verset 9, 2000 ans plus tard. Tout simplement parce que le geste de cette femme, qui voulait très certainement honorer Jésus, est désormais lié au message de l'Évangile, lié symboliquement à la mort de Jésus. À cet instant même, nous sommes en train de vivre exactement ce qui nous est dit au verset 9. Ce matin même, comme Jésus l'a annoncé. Avons-nous un tel amour, une telle considération pour Jésus, comme cette femme qui n'a pas hésité à verser ce parfum très cher, l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier agricole, ce parfum très cher sur la tête de Jésus. Il se peut même que notre dévouement pour Jésus nous fait passer pour fous aux yeux des autres, comme cette femme a été critiquée. A-t-on déjà trouvé insensé votre attachement à Jésus ? Vous a-t-on déjà traité de fou ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que je mettais ma confiance en Jésus. J'étais donc fou aux yeux des autres. Parce que j'étais attaché à Jésus, dévoué à sa personne. J'étais donc considéré comme fou pour les autres. Pourtant, qu'est-ce que le geste de cette femme nous dit sur Jésus lui-même ? Si vous considérez ce geste qu'elle fait, de s'être procuré d'une manière ou d'une autre ce parfum très cher, d'avoir effectivement brisé ce vase et d'avoir versé ce parfum sur lui, alors que ce parfum aurait pu être vendu et l'argent donné aux pauvres. Qu'est-ce que cela dit sur Jésus lui-même ? À quel point il est précieux ? Si même sa présence a mis le soin des pauvres au second plan, c'est dire combien il est important. Si même il est en train de dire à ses disciples, les pauvres peuvent attendre, mais moi je suis là. C'est dire combien il est important, combien il est précieux. Tant que Jésus était sur terre, il était plus important de s'occuper, de se préoccuper de lui que des pauvres. Vous comprenez peut-être un petit peu plus pourquoi Marc nous raconte cette scène, pour nous montrer toute la valeur inestimable de notre Seigneur. Oui, à bien des égards, et de loin, il vaut bien plus que les pauvres. Il est plus important, bien sûr. De quelle manière pouvons-nous l'honorer durant la semaine qui vient ? Bien entendu, ce que nous ferons pour Jésus n'aura pas la même portée que ce qu'a fait cette femme, mais ce que nous espérons, c'est que Jésus qualifie notre geste de bonne action. Parce que c'est son appréciation qui compte. Dans notre société où tout va si vite, la denrée rare est le temps. Est-il vrai que nous manquons de temps pour Jésus ? Est-il vrai d'un autre côté qu'on pourrait nous critiquer parce que nous passons du temps avec Jésus au lieu de l'utiliser pour une autre cause ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'utiliser le prétexte de passer du temps avec le Seigneur pour échapper à nos responsabilités. Mais qu'est-ce que je ne serais pas prêt à donner pour mon Sauveur qui a accepté de mourir à ma place ? Ne serait-ce que du temps. Est-ce qu'à notre époque, nous manquons de temps pour Jésus ? Cela étant dit, notre geste coûteux sera toujours en deçà du sacrifice coûteux auquel Jésus a consenti. Jésus, lui, est allé jusqu'à la mort pour nous. Et la mort de Jésus est inestimable à double titre. D'abord parce que lui-même est inestimable. Cette femme l'a sans doute mieux compris que tous ses autres disciples. Et nous-mêmes, nous le savons si nous avons mis notre confiance en lui. Il est inestimable. Parce que comme Marc le dit au début de l'évangile, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est inestimable. Ce n'est pas juste un homme. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Dieu nous a vraiment donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus. La mort de Jésus est inestimable parce que Jésus lui-même est inestimable, mais aussi parce qu'elle concerne notre salut. La mort de Jésus fait partie du message de l'Évangile. Vous le voyez ici au verset 9, après avoir parlé de son ensevelissement, Jésus fait référence à l'Évangile, à la bonne nouvelle qui sera proclamée partout dans le monde. Bien que Jésus soit passé par la souffrance jusqu'à la croix, maltraité, torturé par les hommes, sa mort fait partie d'une bonne nouvelle pour le monde. Malgré la souffrance, malgré la torture, malgré toutes les choses désagréables que nous allons parcourir dans les semaines à venir. Oui, nous allons voir Jésus souffrir sous nos yeux, dans les Écritures. Mais malgré tout cela, sa mort fait partie d'une bonne nouvelle pour le monde. En payant pour nos fautes, Jésus nous sauve de la condamnation éternelle, celle que nous méritions. Il nous fait échapper à la colère de Dieu. Colère justifiée à cause de nos fautes et que nous méritions. Et Jésus nous donne accès au pardon de Dieu. Il y a un total renversement. Ce que nous méritions, nous ne l'obtenons pas. Et nous obtenons ce que nous ne méritions pas. Le pardon de Dieu, la vie éternelle. Tout cela par grâce et par amour, comme nous l'avons chanté juste avant. Et comme Jésus le disait aussi un peu plus tôt dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 10, verset 45, « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et si nous avons placé notre foi en Jésus, nous faisons partie de ces « beaucoup ». Il est venu pour donner sa vie en rançon pour toi, pour moi. Et l'apôtre Pierre dit aussi quelque chose de similaire dans la première épître. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. On peut s'interroger pourquoi Pierre ici précise le sang précieux de Christ. Parce que la mort de Jésus est inestimable. Je reviens un instant sur la trahison de Judas. Il est clair qu'à ce moment, Jésus n'avait plus la même valeur à ses yeux. Judas, qui était l'un des douze, a clairement décidé de ne plus être un disciple qui marche à la suite de Jésus. Et cela nous rappelle peut-être qu'à chaque fois que nous ne voyons plus Jésus à sa juste valeur, nous sommes tentés de nous détourner de lui. Et nous finissons par le faire. Quand nous avouons parfois que nous nous sommes éloignés du Seigneur, serait-il possible que ce soit en rapport avec le fait que Jésus n'est plus aussi précieux à nos yeux ? Qu'il n'a plus autant de valeur à nos yeux ? Est-ce que c'est le cas en ce moment pour toi ? Est-ce que tu te sens éloigné du Seigneur ? Et est-ce que c'est lié au fait que tu ne le trouves plus aussi précieux qu'avant ? Le cas de Judas devrait nous servir de garde-fou. Jésus est digne d'être honoré comme à Béthanie et non d'être trahi. Pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Jésus méritait d'être honoré et non d'être trahi, et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Considérons une nouvelle fois combien l'amour de Jésus est grand pour nous. Combien Jésus est grand pour nous, précieux, important, inestimable. Et que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux si nous avons été aveuglés pendant un temps. Que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux à propos de Jésus et nous rende capables de l'aimer encore plus. Est-ce que dans notre vie en ce moment, c'est la dernière question que je poserai, est-ce que dans notre vie en ce moment, le Seigneur est celui qui a le plus de valeur à nos yeux ? Est-ce que Jésus est celui qui a le plus de valeur à nos yeux ? Le début de cette dernière partie de l'Évangile dévoile progressivement le sens de la croix. Tout se passe comme Jésus l'a dit. Sa mort est programmée. Cela fait partie de sa mission en tant que sauveur. Cela fait partie du plan de Dieu pour notre salut. Et en même temps, sa mort est inestimable, car c'est bien le Fils de Dieu qui est livré pour être condamné à notre place. Le Fils de Dieu à notre place. Est-ce que vous voyez à quel point cet échange est inégal? Ce matin, la femme qui a versé ce parfum sur la tête de Jésus nous rappelle à quel point Jésus est digne de notre dévouement, est digne de notre attachement, est digne de notre amour. Sa valeur est inestimable. Il est grand, il est bon, et il nous a montré qu'il nous aimait par le don de sa vie. Jésus mérite toujours plus d'attention de notre part. Jésus mérite toujours plus de temps de notre part. Jésus mérite d'être considéré à sa juste valeur. Et Jésus mérite d'être tout pour nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Peut-être que ce matin, en arrivant ici, nous n'avions pas mesuré à quel point Jésus nous semblait peut-être pas à sa juste valeur à nos yeux. À quel point nous le considérions peut-être comme en deçà de ce qu'il est réellement. Et si c'est le cas pour certains d'entre nous, et je veux aussi m'inclure dedans, nous te demandons pardon. Et il a fallu que cette femme de Béthanie puisse nous rappeler à l'ordre par son geste d'amour. Et c'est vrai, si je vois moi-même à l'attachement que je peux t'exprimer, Seigneur Jésus, je me rends bien compte que j'ai besoin d'apprendre encore de cette femme et que j'ai encore besoin d'apprendre de toi. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux. Oui, ouvre nos yeux pour que nous puissions vraiment te voir tel que tu es. Si précieux, si inestimable. Et que nous puissions voir aussi à quel point ta mort pour nous a été inestimable. Et merci parce que nous pouvons encore en parler, parce que nous pouvons encore en bénéficier, parce que par ta mort, nous avons la vie. Oui, Seigneur, continue de nous interpeller, non seulement durant la semaine qui vient, mais aussi dans les semaines à venir. Oui, rappelle-nous à quel point tu as été ce serviteur souffrant. Et si tu as accepté de souffrir à notre place, de souffrir ce que nous méritions de souffrir, eh bien, nous le reconnaissons bien. Tu l'as fait par amour pour nous. Et pour cela, nous n'avons pas suffisamment l'éternité pour être reconnaissants pour une telle grâce. Merci. Merci d'être passé par ce chemin de souffrance et de nous montrer que tu l'as fait pour notre bien. Merci de continuer à nous montrer ta valeur inestimable.